Vous êtes-vous déjà interrogé sur les effets bénéfiques des statines dans le cadre de l'insuffisance rénale chronique?
Que penser des outils d'aide à la décision pour accompagner les patients en pratique clinique?
Dans cet épisode, nous plongeons dans ces thématiques en mettant en lumière les analyses approfondies de ces études réalisées par le professeur Jean-Paul Sculier et par le docteur Gilles Enrard pour Minerva.
Bienvenue sur la plateforme de podcast de Minerva, où chaque épisode est l'occasion de décortiquer et de discuter des analyses de pratiques médicales sous l'angle de l'EBM.
Une occasion unique d'aborder des sujets complexes sous un angle critique fondé sur les dernières preuves scientifiques.
Je suis Zélie Chapelier.
Je suis Justine Colson et nous sommes ravis de vous retrouver au sein des locaux de l'Université de Liège pour ce premier épisode où nous allons explorer ensemble des approches qui impactent directement les pratiques cliniques quotidiennes.
Nous avons également le plaisir d'accueillir le docteur Maxence Wafik. Bonjour docteur.
Bonjour madame Chapelier.
Vous êtes médecin généraliste au centre de Liège. Vous n'êtes pas rédacteur pour Minerva, mais nous comptons aujourd'hui sur votre regard critique, pratique, et sur votre expérience pour challenger nos analystes du jour.
Installez-vous confortablement et préparez-vous à explorer ces sujets sous un angle scientifique, précis et éclairant. Bonne écoute.
Bonjour docteur Enrard.
Bonjour Zélie.
Vous êtes rédacteur pour Minerva, chargé de cours au département de médecine générale de l'ULIège et médecin généraliste en milieu urbain. Bienvenue parmi nous.
Merci, j'apprends que je suis urbain, c'est bien.
Nous accueillons également le professeur Sculier. Bonjour professeur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes également rédacteur pour la revue Minerva, mais vous êtes surtout spécialiste du cancer du poumon et anciennement chef du service de médecine interne de l'Institut Jules Bordet à Bruxelles. C'est bien cela ?
C'est ça.
D'où vient votre goût pour la lecture critique ?
Ça, c'est une vieille histoire. J'ai eu la chance, après avoir terminé ma spécialité en 83, d'aller passer un an à Toronto, au Canada, où était occupé à se mettre sur pied ce qui deviendra l'evidence-based medicine, la médecine factuelle, 10 ans plus tard. Et donc, j'ai suivi toute une formation. Et donc, je suis tombé dans la soupe quand j'étais tout petit. Et j'ai continué. J'ai fait les premières méta-analyses en français. J'ai fait énormément d'entrevues systématiques. J'ai fait aussi beaucoup d'essais cliniques. Donc, je connais bien la méthodologie en pratique.
Vous avez récemment réalisé une analyse critique pour Minerva sur un sujet qui fait souvent débat, la prescription des statines, et plus précisément autour des bénéfices et des inconvénients des statines chez des adultes atteints d'insuffisance rénale chronique non dialysée. Pour commencer, pourriez-vous, professeur, nous expliquer en quelques mots cette étude et ses principales conclusions ?
C'est une étude assez importante parce que les études épidémiologiques ont montré que l'insuffisance rénale chronique est un facteur de risque cardiovasculaire équivalente à celle d'un patient coronarien. D'où l'idée de faire une prévention systématique chez les patients en insuffisance rénale. Et donc, l'étude que j'ai revue pour Minerva est une mise à jour d'une méta-analyse, d'une revue systématique de la littérature avec méta-analyse qui avait été faite 10 ans auparavant. Et donc, cette revue systématique a permis de colliger plus de 50 études, dont 13 nouvelles, portant sur un total d'environ 40 000 patients. Et les résultats montrent que la prescription de statine chez les patients d'insuffisance rénale chronique est associée à une réduction des complications cardiovasculaires, de la mortalité, des infarctus du myocarde et de la mortalité cardiovasculaire.
En examinant cette étude de plus près, quelles en sont, selon vous, professeur Sculier, les principales forces, mais aussi les éventuelles limites ?
Alors, la principale force, c'est d'être une revue systématique de la littérature et donc qu'on a revu toute la littérature en rapport avec la question. Un médecin aime bien d'avoir toute la littérature résumée dans un article plutôt que de devoir aller piocher dans différents endroits pour avoir l'information. Donc ça, c'est sa principale force. Le problème, c'est que c'est extrêmement hétérogène. Il y a des études, j'ai oublié de dire qu'ils ont vu les études randomisées uniquement, qui comparent la statine à un placebo, des statines entre elles, ou qui comparent différentes doses de statine. Il n'y a que pour la première question qu'on peut avoir des résultats, parce que le reste, il y a trop peu d'effectifs. Hein. Et tout ça est extrêmement hétérogène. Hein. Donc, souvent avec des études avec une petite puissance. Grâce à la méta-analyse, on peut en tirer des conclusions, mais une méta-analyse de petites études, ça ne vaut pas une bonne étude bien faite, bien calibrée, évidemment. Donc ça, c'est le gros problème de cette étude. Alors, il y a aussi un manque de données sur la toxicité des statines dans l'insuffisance rénale, parce que, comme vous savez, la toxicité est musculaire. Donc, ça peut entraîner une rhabdomyolyse, c'est une rhabdomyolyse, ça peut entraîner de l'insuffisance rénale. Et on n'a pas beaucoup de données valables pour questionner ce problème.
L'analyse mentionne également que deux des auteurs ont des liens avec l'industrie pharmaceutique. Quel impact, selon vous, ces liens pourraient-ils avoir sur les résultats de l'étude ?
C'est tout le problème des conflits d'intérêts des médecins avec l'industrie pharmaceutique. Les statines, c'est un énorme marché. Et donc, il faut toujours se méfier s'il y a des conflits d'intérêts rapportés par des médecins qui pourraient pousser les statines. Je ne dis pas que c'est le cas ici, hein, mais c'est toujours rapporté de façon extrêmement sommaire, hein, ces conflits d'intérêts.
À travers votre regard critique, quel enseignement clé retenez-vous de cette analyse ? Y a-t-il des aspects qui, selon vous, mériteraient d'être explorés plus en profondeur ?
Alors, l'analyse a été, en termes factuels, très bien faite. Donc, je prends le résumé. Hein. Des statines administrées à 1000 personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique non dialysée, pendant un an, préviennent 32 événements cardiovasculaires majeurs, 10 décès toutes causes confondues et 7 infarctus du myocarde non mortel ou mortel. Donc ça, c'est l'enseignement et donc ça, c'est le message que le généraliste ou tout médecin peut transmettre à son patient.
Maintenant, je me tourne vers vous, docteur Henrard et docteur Ouafik. Comment cette étude résonne-t-elle dans votre pratique quotidienne ?
Donc, je dirais qu'elle ouvre le champ de la prévention à l'insuffisance rénale chronique, et c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait implémenté en première ligne de soins belges. Ce n'est pas un réflexe, je pense, que beaucoup de mes collègues et moi-même, d'ailleurs, on a. Donc je pense qu'elle vient élargir le champ d'intérêt des statines encore un peu plus, hein, parce que jusqu'où est-ce qu'on prescrit en prévention primaire les statines, c'est aussi une question en soi, mais il semblerait que ça soit un champ pertinent, celui de l'insuffisance rénale chronique.
Tout à fait. C'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la formulation. En termes de pour 1000 personnes, on a telle chose, parce que ça, c'est transmissible assez facilement à un patient plutôt que dire que ça réduit le risque relatif de 20,2%. Ça n'a pas beaucoup de sens pour quelqu'un. Dire si je donnais ce médicament à 1000 personnes, on sauverait X vies. Ça, c'est assez facile à entendre et à comprendre. Ça aide à la décision partagée avec le patient sur l'initiation. Je pense que ce qui est compliqué, mais ça, c'est un problème classique avec les statines, c'est qu'on n'a pas plus d'informations sur quelle statine donner et à quelle dose la donner, par exemple. Donc ça, c'est un peu une limitation dans la pratique clinique. Si je me dis, tiens, j'initie un traitement prévention primaire de statine, est-ce que je fais la pravastatine, rosuvastatine, simvastatine, est-ce que je fais 10 mg, 20 mg, 40 mg aux doses, faible dose, quid du risque d'insuffisance rénale si je mets une dose plus élevée, jusqu'à quelle dose on a une balance bénéfice-risque qui va du côté du bénéfice et qui ne risque pas de dégrader la fonction rénale d'un patient qui est déjà avec une fonction rénale amoindrie. C'est encore des zones d'ombre avec lesquelles je pense qu'il faut être transparent avec le patient en début de décision de traitement.
Professeur Sculier, vous souhaitez réagir ?
Je voulais rappeler qu'il y a 10 ans, il y a eu une conférence de l'INAMI sur les statines et ce problème a été abordé avec la recommandation de faire une prévention. Je ne sais pas si on doit dire primaire ou secondaire, ça dépend si on est cardiologue ou épidémiologiste, mais ça a été recommandé à ce moment-là. Et alors je voudrais aussi ajouter qu'il faut faire attention parce que dans l'insuffisance rénale, pour tout médicament, il faut toujours adapter la dose à la fonction rénale en fonction du métabolisme du médicament.
Et alors moi j'ai l'impression que notre discussion nous oriente vers le problème de l'implémentation, de la mise en œuvre de l'EBM, okay, où on sent qu'il y a des freins ici. Et d'ailleurs si je ne m'abuse, c'était une des conclusions de la conférence de consensus de l'INAMI il y a 10 ans, j'en faisais partie, c'était qu'il y avait un travail à faire en termes d'implémentation pour les médecins généralistes. Et je pense que le KCE, donc le Centre fédéral d'expertise, le Statin Choice, l'outil de décision partagée, je fais un pont avec l'étude qui va suivre, ne comprend pas le risque, dans l'évaluation du risque de base, ne comprend pas le fait d'être insuffisant rénal ou pas. Les outils qu'on commence à utiliser en médecine générale pour décider avec les patients de prescrire ou pas en prévention primaire une statine ne comprennent pas cet élément insuffisance rénale ou pas. Donc c'est un frein de plus à la décision, à l'implémentation.
Pour terminer, professeur, j'ai une dernière question pour vous. Si vous pouviez rêver un peu, qu'aimeriez-vous voir émerger dans la recherche sur ce sujet ?
Mais comme pour tout problème dans la prévention cardiovasculaire, sur base de l'évaluation du risque, j'aimerais bien d'avoir des études contemporaines. Parce que toutes ces études ont été faites sans tenir compte des traitements associés, que ce soit le régime, par exemple le régime méditerranéen, l'huile d'olive, ou bien d'autres médicaments comme l'aspirine, par exemple. On aimerait bien d'avoir des études randomisées, faites dans un contexte contemporain, parce qu'on s'est bien amélioré aussi dans la prévention tout azimut du risque cardiovasculaire. À ma connaissance, il n'y a que 2 études modernes dans la prévention cardiovasculaire randomisées qui ont été publiées. 2 scandinaves, une testant le score d'icalcique, hein, donc de faire un scanner en plus de ce qu'on fait en usuel, qui ne montre pas d'effet par rapport à la prise en charge classique, et l'autre sur le traitement de la sténose carotidienne asymptomatique. On a tiré au sort les gens en chirurgie, radiologie interventionnelle ou traitement médical optimal. Il n'y a pas de différence dans les résultats, ce qui prouve que le traitement médical, dans la vie de tous les jours, s'est bien amélioré. Donc, il faut un peu tout recalibrer.
Docteur Enrard, vous contribuez à la revue Minerva depuis maintenant plusieurs années. D'où vient votre goût pour la lecture critique ?
Alors, je n'ai pas eu la chance d'aller à Toronto dans le berceau de l'EBM comme le professeur Sculier, mais j'ai rencontré Pierre Chevalier, qui est un peu notre David Sackett à nous, en Belgique francophone, qui malheureusement est décédé il y a quelques temps. Donc, c'est une rencontre avec un professeur de médecine générale de l'UCL.
Alors, vous avez récemment analysé une étude sur l'utilisation d'outils d'aide à la décision pour les patients en pratique clinique. Pourquoi choisir de nous en parler aujourd'hui ?
Alors, parce que c'est une revue de la Cochrane et elle est réalisée selon les règles de l'art. C'est vraiment, je pense, en termes de méthodo, un très bon exemple. Alors, le sujet choisi me plaît parce que c'est une intervention non médicamenteuse et ça reste un peu le parent pauvre de l'EBM classique, RCT, méta-analyse, etc., de choisir des interventions non médicamenteuses. Et en plus de ça, c'est une intervention, l'utilisation d'outils d'aide à la décision qui implique le docteur. Et donc, c'est une intervention qui va au cœur de la relation thérapeutique pour essayer de la chambouler un petit peu, hein, de la manière dont on dispense de la formation, dans quel but, hein, pour informer ou pour partager la décision. Et dernière chose, c'est un consortium. Je trouve ça toujours intéressant de voir des études qui sont suivies, des séries d'études qui sont menées par un même consortium. Il y a souvent beaucoup d'expérience là-dedans. Et c'est mené par une infirmière. Voilà, ça, c'est les raisons qui, de prime abord, me font choisir cette étude.
Il y aurait même presque un aspect subversif, en fait, au choix de la présentation de cette étude et même à la manière dont elle s'est déroulée.
En tout cas, réflexif et puis, j'espère, subversif aussi.
Docteur Wafik, cet aspect réflexif, est-ce qu'il vous parle ? Est-ce qu'il y aurait un réel besoin pour la profession ?
Tout à fait. Je pense que c'est parfois quelque chose qu'on n'a pas assez l'occasion de développer, que ce soit dans les stages, que ce soit dans le cursus, et cette réflexivité sur sa propre pratique et même sur sa manière de percevoir le monde, son rôle en tant que médecin, son rôle au sein d'une équipe, son rapport à la connaissance médicale, son rapport au savoir. C'est toutes des choses qui sont indispensables, qui font appel à ce qu'on appelle à ce moment-là les humanités médicales pour essayer d'inclure des savoirs de sciences humaines et sociales ou des arts à la réflexion des étudiants en médecine ou des médecins.
Docteur Sculier, vous voulez réagir ?
Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un contrôle de la qualité des données médicales. Parce que dans beaucoup d'études, finalement, on ne sait pas ce qui est réellement arrivé au patient. On est dans les symptômes, on n'est pas dans les maladies. Et donc ça, c'est quand même un problème. Quand on veut interpréter les choses et décider pour le médecin le traitement à proposer.
Particulièrement dans les méta-analyses, quand il y a des interventions aussi complexes que l'introduction d'un outil d'aide à la décision, ça pose des problèmes méthodologiques, évidemment. Quelque chose qui est symptomatique de ce truc qui a du mal à passer en médecine, c'est que cette revue systématique de la littérature, c'est une deuxième mise à jour. Donc 2003 pour la première, 2017 pour la deuxième et puis 2024 pour la troisième. Ils ont réussi à trouver 209 études pour un total de plus de 100 000 patients, avec des résultats, on va le voir, qui sont statistiquement significatifs pour tous les critères primaires, avec des résultats qui sont cliniquement pertinents. Donc en fait, c'est des niveaux de preuve élevés, modérés à élevés. On a des résultats qui sont exceptionnellement présents, donc une littérature pléthorique, avec des résultats significatifs, et puis très peu d'implémentation sur le terrain. Donc pour moi, c'est symptomatique de cette EBM qui existe, mais de cette pratique qui ne bouge pas. Ça veut dire des choses.
Et justement, par rapport à cette implémentation de ces outils sur le terrain, on a aussi relevé dans l'étude qu'il n'y a pas de recommandation belge spécifique concernant leur utilisation au sein des guides de pratique clinique. Alors, selon vous, qu'en est-il et pourquoi cette absence de recommandation ?
Alors, je compte sur les podcasts de Minerva pour faire avancer l'agenda, on est d'accord. J'ai des explications qui, pour moi, sont de l'ordre de la difficulté à faire bouger les cultures, hein, et notamment la culture médicale, singulièrement la culture médicale francophone. Clairement, ce n'est pas facile à mettre en place dans sa pratique, ça demande de l'expertise. Alors, du temps, pas tellement que ça, parce qu'ils ont étudié en critères secondaires l'influence sur la durée de la consultation. Et quand ces outils étaient utilisés préalablement à la consultation, ça ne changeait pas la durée de la consultation. Mmh. Et quand ils étaient utilisés dans la consultation, ça les augmentait en moyenne d'1,5 minutes.
Et docteur Wafik, professeur Sculier, selon vous, qu'est-ce qui pourrait bloquer ?
Le problème de ces revues systématiques qui portent sur tous les continents, c'est que les systèmes de santé sont très différents d'un pays à l'autre. Les problèmes aussi ne sont pas les mêmes partout, les moyens non plus. Et donc, ce qu'on a besoin, c'est de données générées dans notre pratique à nous, de données belges, par exemple, qu'on puisse extrapoler à notre pratique et pas aller puiser des données chez les Américains, par exemple, qui ont un système qui n'est pas du tout comparable.
Tout à fait. Et donc, pour appuyer vos propos, enfin, clarifier les choses, effectivement, cette revue systématique, enfin, les études incluses viennent de 19 pays. Il y en a une grande majorité des États-Unis, le second pays pourvoyeur d'études, le Canada, puis le Royaume-Uni, l'Australie, et puis après, c'est cacahuète. Hein. Donc, on est vraiment sur le monde anglo-saxon. Donc, c'est vrai que si j'avais une critique à aborder, à pointer dans cette étude, c'est qu'elle est rudement bien faite. Par contre, il glisse assez vite sur le problème de l'hétérogénéité. On peut tester l'hétérogénéité statistique. Ça, c'est classiquement fait et elle est massive, elle est importante pardon, pour ces résultats. Ils évacuent la question d'une manière que je ne comprends pas très bien. Et là, ça poide le fait que quand on fait de l'analyse critique, on a très vite besoin d'un statisticien qu'on n'a pas toujours sous la main hein, mm-hmm. quand on travaille pour Minerva, etc. Dans tous les comités d'accompagnement sérieux d'études, etc., il doit y avoir un statisticien. Ici, ce n'est pas le cas. Mais ils parlent d'hétérogénéité portant sur la direction de l'effet plus que sur la taille de l'effet. Et donc, je creuse un petit peu, j'arrive pas vraiment à y voir clair et je dois laisser tomber parce que c'est pas mon domaine et c'est pour pointer aussi à nos lecteurs les limites d'une analyse. On peut simplement noter que c'est pas commun, que c'est pas habituel et c'est ce que j'ai fait dans mon analyse. Et puis on laisse le lecteur se dépatouiller avec ça.
Et justement, docteur Wafik, comment est-ce que vous vous dépatouillez avec ça alors ?
Moi, je trouve ça intéressant et ça fait lien avec ce qu'on demandait tout à l'heure sur la réflexivité. À titre personnel, je n'ai pas besoin d'une étude pour me dire que c'est bien de prendre la décision avec mon patient et qu'il y a des outils qui peuvent aider pour ça. Et je trouve ça assez fascinant, même d'une certaine manière. Et ça, je pense que c'est parfois limite une dérive qu'on peut avoir dans l'EBM, c'est de vouloir tout prouver, tout mesurer, tout évaluer. Et je pense qu'il y a aussi un aspect stratégique quand il y a des changements à mettre en place dans les pratiques, de les appuyer, de dire « Ok, je ne fais pas ça parce que je suis un rêveur, je fais ça parce que j'ai X données derrière moi qui permettent d'appuyer que c'est une bonne manière de prendre une décision avec un patient. » Et ça, je pense aussi que c'est une question de... Il y a le fait de trouver une bonne réponse, mais aussi le fait de poser une bonne question qui est important. Et je pense parfois qu'il y a certaines choses dont l'évaluation ne m'intéresse pas. Donc, et par exemple, typiquement... savoir si c'est positif ou négatif de prendre des décisions partagées avec le patient, ça ne m'intéresse pas parce que idéologiquement, pragmatiquement, c'est quelque chose qui est implémenté, qui est dans ma pratique. Et je n'ai pas besoin de m'appuyer sur des preuves scientifiques pour me dire que c'est la manière que j'ai de vouloir nouer ma relation thérapeutique avec mon patient et mener ma pratique clinique. Après, c'est très bien si ça marche. Hein. Encore plus heureux de pouvoir m'appuyer sur littérature pour dire... Je pense que c'est la bonne chose moralement, éthiquement, intellectuellement à faire. Et en plus de ça, ça semble avoir des avantages pratiques.
Évidemment que informer les patients, c'est une obligation légale. Hein, la loi sur le droit des patients 2002, qu'il y a des raisons éthiques qui suffisent peut-être à adopter cette intervention. Mais nous, en tant que praticiens, on est quand même intéressés de savoir si on ne fait pas pire que bien. Parce que parfois, armé de bonnes intentions, on peut faire pire que bien. Et c'est intéressant de noter que ces méta-analyses, cette revue systématique, incluaient des critères de sécurité en critères secondaires, qui étaient par exemple le regret décisionnel. Donc, 6 mois plus tard, on vous a donné du pouvoir dans la décision, on vous a donné un moyen d'essayer de prendre la décision pour vous. Est-ce que vous regrettez ou pas votre décision ? Et la réponse est négative. Il n'y a pas de différence statistiquement significative en termes d'augmentation du regret de la décision. Et donc ça, je pense que c'est à même d'aider les praticiens à adopter ces bonnes pratiques qu'on peut déjà adopter pour des raisons politiques et éthiques, en se disant, mais ça va, mes craintes ne sont pas fondées, je peux le faire sans danger de faire pire que bien, quoi.
Petite question parallèle, ces outils en soi, est-ce qu'ils sont vraiment pensés pour rencontrer des patients qui auraient des difficultés avec la littératie en santé, par exemple ?
Alors, il y a quelques chercheurs qui se sont posé la question, d'accord ? Et je pense que ça nécessite évidemment une adaptation en termes de communication du risque. Comme on ne communique pas sur d'autres choses de la même manière avec des gens qui sont en difficulté avec la formation médicale, ben on ne communique pas ce qu'il y a de plus compliqué à communiquer, à mon sens, des risques statistiques, des probabilités, des numbers needed tout de suite, etc., de la même manière avec des gens en difficulté. Par contre, des principes de précaution universelle, donc essayer d'être simple avec tout le monde, peut bénéficier donc à tout, au plus grand nombre et aussi à ceux qui sont en difficulté. Et on a besoin d'études là-dessus. Je cite une étude là, dans mon analyse qui s'est posée la question, mais c'était une étude position paper qui disait bah, il faut faire attention à ceci, cela, mais ça n'a jamais été testé, à ma connaissance, dans les outils de décision partagée, l'influence du niveau de littératie des participants.
Oui, tout à fait. Donc ça ouvrirait de belles perspectives encore en termes de recherche.
Évidemment.
Professeur Sculier.
Il faut aussi tenir compte de ce que le patient sait de sa maladie. Hein. La plupart de ces études viennent des pays anglo-saxons. Et par exemple, en Amérique, dans le domaine du cancer, les patients ne savent pas vraiment la réalité de leur situation. Hein. L'oncologue qui fait un traitement palliatif au sens français du terme, il dit à son patient qu'il va guérir et le patient le croit. Oui. Ça biaise complètement les études, évidemment. Hein. En Europe, chez nous, les gens sont beaucoup mieux informés de leur situation réelle.
C'est aussi une des grandes utilités de cette méta-analyse, c'est de donner des chiffres de base sur les degrés de connaissance de sa maladie, vu que c'est ça qu'on cherche entre autres à améliorer, sur la perception exacte des risques. Par exemple, le risque de base en termes de perception exacte des risques, il est de moins de 30%. C'est-à-dire qu'il y a moins de 30% dans la population de base avant intervention qui perçoit correctement le risque en lien avec la question qu'il se pose. Ça va dans votre sens. Études principalement anglo-saxonnes. Donc voilà, il y a vraiment du travail à faire dans le monde anglo-saxon et je ne suis pas sûr et certain qu'on soit statistiquement significativement meilleur ici en Europe. Ça reste à prouver, ça. C'est une question ouverte.
Docteur Wafik.
Tout à fait d'accord avec le fait que je ne suis pas tout à fait convaincu que les patients soient significativement mieux informés, même à l'heure actuelle, malheureusement. Je n'ai jamais exercé aux États-Unis, donc je n'ai pas de point de comparaison. Pour revenir sur la question de la littératie, je pense que c'est vraiment un enjeu. Ce que j'aime bien avec l'outil des statines du KCE, c'est des petits bonhommes. C'est des petits bonhommes qui sont verts s'ils sont en bonne santé, qui sont rouges s'ils sont morts, qui sont jaunes si on leur a sauvé la vie avec les statines. C'est très visuel, c'est très simple à montrer à un patient. Quel que soit finalement son degré de maîtrise de la langue, tous les outils n'ont pas cette plus-value-là. C'est là où je pense qu'on a un intérêt à évaluer quels outils sont plus performants pour quelle catégorie de patients et essayer de faire en sorte de ne pas avoir un outil pour tout le monde en espérant qu'il marche chez tout le monde, quel que soit le niveau socio-économique, niveau littératie, la maîtrise de la langue, le fait d'être primo-arrivant ou non, mais d'essayer d'avoir des outils qui peuvent être adéquats pour certaines patientèles dans certaines circonstances.
Docteur Henrard, le mot de la fin ?
Alors, un truc qui est intéressant avec ces outils de communication du risque, c'est qu'il y a un grand non-dit, c'est que là, beaucoup de médecins, et moi le premier, on tire aussi bénéfice de ces outils. Parce que la littératie du risque des professionnels eux-mêmes est à travailler. Et donc, quand j'utilise ces outils du KCE, statin choice, etc., ça m'aide à comprendre de quoi je parle également. Donc, ça clarifie les choses pour tout le monde, aussi bien pour le professionnel que pour le patient.
Voilà, nous arrivons déjà à la fin de ce premier épisode. Un grand merci à nos invités, au docteur Maxence Wafik, au docteur Gilles Henrard et au professeur Jean-Paul Sculier pour leur éclairage critique et leur partage.
Et merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et restez à l'écoute pour le prochain épisode du podcast de Minerva. À très bientôt !